Radio Okapi.
Toujours pas de gouvernement en RDC. Plus de 4 mois déjà passés, le cadre permanent de concertation de la femme congolaise s'est dit inquiet. La présidente de CAFCO demande aux partis membres de l'Union sacrée pour la nation de faire diligence face à la misère de la population, vous l'entendrez. Il n'y a plus de trafic sur la nationale numéro 1 partant de Kinshasa au Grand Kasaï via le Kwango et la ville de Kikwit. La route est coupée depuis mercredi au niveau du village de Kalunda à la suite d'une forte pluie. Le député provincial Papi Mitete demande l'intervention urgente du gouvernement. L'exploitation des forêts s'est faite de façon désordonnée à RDC en général et dans la Tchopo en particulier. Déclaration du professeur Nikeza Mundala de la faculté des sciences de l'université de Kisangani. C'était en marge de la journée mondiale des forêts. Le professeur Amundala est notre invité ce matin. Madame, Messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par cette inquiétude exprimée par les femmes membres du cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO en rapport avec le retard enregistré dans la publication du nouveau gouvernement. Le CAFCO estime qu'au moment où le pays est confronté à plusieurs défis, notamment d'ordre sécuritaire et social, un tel retard ne peut se justifier. La présidente de cette plateforme, Rose Mutombo, demande aux partis membres de l'Union sacrée pour la nation de faire diligence face à la misère de la population. La présidente de CAFCO est au micro d'Honoré Missienga Kalala.
Nous avons réellement des inquiétudes. On croyait que tout allait se passer le plus rapidement possible, étant donné que les uns et les autres sont tous dans l'Union sacrée et qu'on n'a plus, comme dans le temps, plusieurs tendances qui se réunissaient. Mais ça nous inquiète surtout du fait que l'insécurité bat son plein encore au niveau de l'Est. Et au niveau national, nous constatons aussi que le social de la population traîne à s'améliorer et qu'il est important et urgent que le gouvernement se mette en place pour que les choses puissent bouger, puisque ça fait presque 5 mois que nous n'avons plus de gouvernement dans ce pays.
Plaidoyer parlementaire pour la relance du processus électoral en RDC. Le bureau de liaison avec le Parlement de la Conférence épiscopale nationale du Congo, BLP-CENCO, a organisé mardi à Kinshasa un atelier de réflexion sur les réformes électorales à entreprendre, ce en collaboration avec l'Ordre national des experts électoraux, ONEL. En termes des priorités, par quelles réformes faudra-t-il commencer et pourquoi? Plusieurs personnalités sont intervenues pour répondre à ces questions avec des propositions des réformes prioritaires. Parmi elles, le président sortant de la CENI, Corneille Nanga, au micro de Jeff Ngoy.
Disposer de manière précise que les personnalités indépendantes choisies ne sont ni des personnalités politiques élues, ni des candidats non élus, à quelque niveau que discutant, encore moins des militants ou exerçant des activités politiques connues pour tous les membres. Toute personne qui a déjà été élue, ou toute personne qui a déjà été candidat, toute personne qui est militant de premier rang, toute personne qui est cadre d'un parti, on devrait l'écarter et choisir les personnalités indépendantes. Renforcer l'indépendance des personnalités choisies en leur conférant par voie légale le caractère d'inamovibilité, comme à la Cour constitutionnelle. Énoncer clairement le fait que les 3 délégués désignés par la société civile, que le président en est désigné par les 8 confessions religieuses.
Je vous le disais en titre, la nationale numéro 1, route qui va de Kinshasa jusqu'au Grand Kasaï en passant par le Kwango et par la ville de Kikwit, est complètement coupée depuis mercredi à la suite d'une forte pluie. C'est à la hauteur du village de Kalunda, 4 kilomètres de la commune rurale de Masamuna, territoire de Masimanimba. Le député provincial Papi Mitete qui le rapporte renseigne que le trafic est bloqué, marchandises et des personnes malades à destination de Kinshasa pour des soins sont aussi bloquées. Pour l'heure, aucune intervention signalée. L'élu de Kikwit interpelle le gouvernement via le ministère des Infrastructures, le député Papi Mitete, joint par Irène Boma.
Au niveau du territoire de Massimani à Massamouna, là où est passée la nationale numéro 1, le trafic est bloqué, il n'y a pas de circulation, les véhicules sont bloqués de bout tout comme de l'autre. Nous ne savons pas comment on sera ravitaillé en denrées alimentaires, en médicaments et autres choses. Cette route-là a une importance capitale pour la province du Kwilu et d'autres provinces également. Donc nous en appelons au gouvernement central par l'entremise du ministère des ITP afin qu'une intervention urgente, ponctuelle et importante soit trouvée afin que les trafics puissent s'opérer à ce niveau et que les engins passent calmement. Il y a des malades en urgence qui partent pour Kinshasa pour le soin. Ils sont bloqués à ce niveau-là. Il y a des marchandises périssables. Donc nous sommes obligés d'intervenir afin que la solution soit trouvée pour faciliter les personnes à circuler librement ainsi que leurs biens.
Notez que cette situation intervient au lendemain de l'alerte lancée par l'administrateur de Massimanimba. Jean Bosco Mukubidi déplorait le mauvais état de cette route à ce niveau, rappelant qu'il y a quelques mois, le gouvernement provincial du Kwilu avait effectué des travaux de réhabilitation de cette route au même endroit. Parlant des routes, notez que l'avenue du tourisme, route longeant le fleuve Congo dans la commune de Ngaliema ici à Kinshasa, devra être partiellement fermée dès aujourd'hui, 1er avril, pour un mois. L'annonce est contenue dans un communiqué de l'hôtel de ville de Kinshasa publié hier. Selon ce communiqué, c'est pour faciliter les travaux que la régie des eaux effectue sur ce tronçon, sur le terrain de cette entreprise, terrain situé à côté de l'hôpital de la Rive. Ces travaux consistent en la construction du nouveau complexe industriel de traitement d'eau potable au quartier Binzaozone à partir du captage des eaux du fleuve. La conduite devra ensuite entrer dans le Kanchachi. L'hôtel de ville rassure que des dispositions pratiques seront prises par les services concernés ainsi que la régie des eaux pour réguler le trafic sur ce tronçon. À Goma, signalons la remise hier aux autorités provinciales du Nord Kivu d'un lot des infrastructures d'adduction d'eau potable en faveur de la population, construites sur financement de l'ambassade du Royaume-Uni. Ces infrastructures ont été remises par la directrice de la coopération britannique. Il s'agit entre autres d'une soixantaine des bornes fontaines, mais aussi des deux réservoirs d'eau d'une capacité de 5000 m3 chacun. Un projet de 7 ans mis en œuvre par l'ONG Mercy Corps. Plus de détails avec Sif Amagourou.
Ce vaste programme de développement qui a débuté depuis 2016 et qui arrive à terme cette année vise pour objectif l'amélioration de l'accès à l'eau potable pour 1,1 million de personnes dans les villes de Goma et Bukavu. La directrice de la coopération britannique, Juliette John, s'est réjouie de l'impact positif du projet, notamment l'incidence de la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans. Juliette John.
On est très fiers en fait des résultats que ce programme a réalisé. Il faut mentionner que de 2016 à 2021, le programme a réduit de moitié le taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans, ce qui a sûrement sauvé des milliers de vies. Nous estimons aussi que le nombre de personnes qui peuvent justement collecter cette eau de qualité dans un rayon de 30 minutes aller-retour a doublé depuis 2014. Et maintenant, de nombreuses femmes et jeunes filles n'ont plus besoin d'aller au lac, qui a des fois été un voyage assez dangereux. Et maintenant, elles peuvent accéder à quelque chose de plus près.
Le projet a été financé à hauteur de 38 millions d'euros, soit 52 millions de dollars américains. Ces infrastructures seront désormais gérées par le gouvernement provincial à travers la régie des eaux. Goma, Sif Amagourou, Radio Okapi.
Direction l'Ituri, les habitants des chefferies des Baéma Nord et du secteur des Walindu-Tati saluent le travail abattu par les casques bleus de la MONUSCO dans plusieurs de leurs entités. Ils l'ont dit mardi au représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en charge des opérations et de la protection, Kassim Diagne. C'était au cours d'une rencontre à Roé, à plus de 100 km au nord de Bunia, territoire de Djougou. La population locale cite par exemple la dernière intervention des soldats de la paix à Kparanganza le week-end dernier, ce qui a permis de déjouer une attaque des miliciens de la CODECO. La population demande à la MONUSCO d'intensifier ses patrouilles dans cette zone. Témoignage de Désiré Maguga, président de la société civile du secteur de Walindu-Tati. Il est au micro de Martial Kiza.
Les populations étaient très contentes à voir seulement la présence de la MONUSCO à Kparanganza et tous les groupes armés avaient fouillé. C'était vraiment un point positif pour nous. Nous sommes sur terrain, nous vivons tout ce qui se passe ici. Mais les gens qui arrivent debout, ils ne ne savent pas tout ce qui se passe chez nous. Nous vivons ici sur terrain, nous voyons tout, la présence de MONUSCO est très importante. Vous voyez même ici au camp des déplacés à Baïmano. Si cela n'était pas à cause de la MONUSCO, aujourd'hui ces déplacés allaient déjà être incendiés ou tués. À cause de la présence de la MONUSCO, prouve que les déplacés vivent à peine, même si leur champ est très loin, même si côté qu'on menace. Mais néanmoins, nous demandons la paix puisse être règne à notre territoire Tindjoukou.
Comment éradiquer définitivement le phénomène groupes armés locaux et étrangers qui endeuillent les populations de la RDC et celles de la sous-région? Dans un communiqué, les FARDC disent avoir entrepris des contacts avec toutes les armées des pays voisins en vue d'arrêter les stratégies appropriées pour atteindre cet objectif, ce suivant les recommandations des accords d'Arusha. Dans cette perspective, les FARDC affirment privilégier le renforcement de la coopération militaire, les concertations régulières entre les armées de la région ainsi que la mutualisation des efforts et de renseignements. D'autres détails avec vous, Pele Kipela Mondo.
Pour les FARDC, l'objectif poursuivi dans cette coopération militaire est de combattre avec efficacité et neutraliser de manière définitive tous les groupes armés, notamment les EDF MTM, les FDLR, les FNL et toutes les autres forces négatives externes et locales qui perturbent la paix dans la sous-région. Les efforts ainsi conjugués par tout le monde visent l'intégration économique régionale dans un environnement sécurisé, ajoute ce communiqué, signé par le général-major Léon Richard Kasonga, porte-parole des FARDC. L'armée rappelle que cette coopération qui existe déjà avec les forces de défense du Rwanda, de l'Ouganda, de l'Angola et de la République centrafricaine sera étendue très prochainement à d'autres pays limitrophes dans le but de mettre définitivement fin à cette menace. Pour les FARDC, la solution à ces problèmes doit être à la fois sous-régionale, régionale et internationale. Les FARDC rappellent aussi qu'en septembre 2019, lors des rencontres tenues à Goma entre les armées ougandaises, rwandaises, burundaises et tanzaniennes, en présence de la MONUSCO, de l'AFRICOM et de la CIRGL, les participants avaient unanimement félicité la mutualisation des renseignements pour permettre à chaque pays concerné par le terrorisme frontalier de traquer tous les hors-la-loi qui insécurisent la sous-région.
Entre-temps, au Nord Kivu, on signale l'arrivée hier à Beni d'une délégation du corps logistique des FARDC. Objectif, évaluer la capacité opérationnelle de l'armée, mais aussi statuer sur les allégations de trafic présumé des munitions de guerre par certains éléments FARDC dans la région, conduite par le général Mbayungoy Patrick, inspecteur corps logistique des FARDC. Cette délégation a été reçue par le maire par intérim de Beniville. C'est au sortir de cette séance de travail que le chef de la délégation s'est confié à la presse. Le général Mbayo Patrick revient sur l'essentiel de sa mission au micro de Sekombi Katondolo.
Ils sont venus pour une mission d'évaluation de capacité opérationnelle. C'est une mission de routine qui, nous appelons ça une inspection externe pour évaluer les capacités opérationnelles des non-militaires. En fait, le problème du trafic des munitions, on a déjà travaillé là-dessus, mais nous sommes venus encore pour s'enquérir de la situation, mais néanmoins, ce n'était pas ça notre objectif. Nous, c'est dans l'évaluation des capacités opérationnelles. C'est une mission de routine.
Clôture hier à Kinshasa de la formation des professionnels des médias sur la traite des humains en RDC, organisée par la présidence de la République à travers l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, en collaboration avec l'OIM et Internews. Cette formation a réuni les professionnels des médias de la capitale Kinshasa et de quelques provinces du pays. D'autres détails avec Pierrot et la Mégie.
Classée dans la zone rouge par rapport aux questions de traite des personnes, la RDC a pris des engagements à travers la présidence de la République à combattre ces fléaux, et la formation de ces jours adressée aux professionnels de médias a visé à outiller ces derniers à travers les différents modules et de renforcer leurs capacités sur les notions de traite des personnes quant aux différents concepts ou cadres normatifs institutionnels de la lutte contre la traite des personnes en RDC, ainsi que la production des reportages liés aux questions des traites des personnes en respectant l'identité et la vie privée des victimes. Dans ce mot de clôture, Madame Cécile Rebecca Metakasanda, coordonnatrice de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes en RDC, a invité les participants qui sont désormais point focaux de la lutte contre la traite des personnes dans leurs médias à travailler en tout engagement et toute franchise pour mettre fin à ce fléau qui fait des millions de victimes à travers le pays. Notons que pour cette première formation, plus de 20 journalistes des médias audiovisuels, de la presse écrite et de la presse en ligne en provenance des différentes provinces de la RDC ont participé à cette formation financée par l'USAID et organisée en collaboration avec l'Organisation internationale des migrations ainsi qu'Internews.
Actualité Afrique Monde.
Nous sommes au Niger. Des tirs nourris ont été entendus durant la nuit de mardi à hier mercredi à Niamey, dans le quartier administratif proche du palais de la présidence. Selon des sources sécuritaires, c'est une tentative de coup d'État qui a été rapidement maîtrisée par la garde présidentielle. Cela à 2 jours de la prestation de serment du président élu Mohamed Bazoum. L'épicentre de l'attaque était le carrefour du ministère des Affaires étrangères, où sont visibles actuellement les impacts des balles et des obus. Cet endroit est à un jet de pierre du palais présidentiel.
L'invité.
En RDC en général et dans la province de la Tchopo en particulier, l'exploitation des forêts s'est faite de façon désordonnée. Déclaration du professeur Nikez Amundala de la faculté des sciences de l'université de Kisangani. Il a dit mercredi en marge de la célébration de la journée mondiale des forêts. Invité de ce journal, le professeur Nikez Amundala, coordonnateur de l'ONG Action pour le droit de l'environnement et la restauration de l'écosystème, ADRE en sigle, s'entretient avec Jacques Moukonkolé.
Professeur Nikez Amundala, bonjour.
Bonjour.
Vous avez organisé des conférences débats dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des forêts. Ces conférences ont porté sur l'état des lieux des forêts de la RDC et de celle de la Tchopo. Quel état des lieux pouvez-vous dresser aujourd'hui sur les forêts de la RDC en général et de celle de la Tchopo en particulier?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Il faut reconnaître que l'exploitation des forêts en RDC se passe de manière assez désordonnée parce qu'il y a, on sait, des concessions, parfois sans savoir qu'est-ce qu'on fait, et on a parfois cédé des concessions qui se trouvent dans des réserves. Et il faut donc dire que de manière globale, l'exploitation des forêts en RDC s'est faite de manière désordonnée.
Alors cette cession est faite pour permettre peut-être aux sociétés forestières d'exploiter le bois?
Oui, on donne parfois des concessions forestières, ça s'est fait à Kinshasa, et ils n'ont parfois pas des données de terrain. Je me rappelle une fois par exemple, on avait cédé la réserve de Yoko pour une entreprise qui devait exploiter cette forêt-là. Or, la réserve de Yoko, c'est une réserve consacrée et il y a déjà eu beaucoup d'études scientifiques qui sont faites là-bas. Mais cette forêt a été, à un moment donné, cédée. Ça signifie donc que l'exploitation des forêts s'est faite de manière désordonnée dans notre pays.
Et il y a aussi l'agriculture qui est mise en cause.
Tout à fait. Il y a l'agriculture aussi qui est mise en cause. D'ailleurs, l'agriculture, ça, c'est une des grandes raisons qui cause la déforestation dans notre pays. Tout le monde fait les champs là où il veut. Vous voyez, il n'y a donc pas un aménagement sérieux pour dire ça c'est l'étendue consacrée pour le champ, ça c'est l'étendue consacrée pour l'habitation, etc., etc. Et ça c'est l'étendue consacrée pour la réserve. Et donc il faut, pour arranger ces choses, il faut d'abord un aménagement global pour qu'on dise voici l'étendue qui est consacrée pour telle activité, voici l'étendue qui est consacrée pour telle autre. Donc c'est ça qui pose véritablement des problèmes chez nous.
Les forêts sont exploitées de façon désordonnée et pourtant elles ont un rôle important à jouer. Oui, dans la vie de l'homme. Quel est ce rôle?
Les forêts jouent plusieurs rôles. Les forêts nous donnent la nourriture, les forêts nous donnent l'oxygène, ça c'est un des éléments très importants. La forêt, quand on la considère globalement, dans la forêt vous avez les animaux et tout. Et donc tous ces éléments nous donnent de la nourriture, de médicaments, etc., etc. Et donc sans la forêt, l'homme ne peut pas vivre. La vie de l'homme dépend entièrement de la forêt. Il donne l'oxygène, il donne les médicaments, il purifie l'air, il conserve l'eau, etc., etc.
En parlant de l'oxygène, il y a un dispositif qui a été placé dernièrement, je pense par l'Union européenne, dans la forêt de Yangambi, la tour à flux. Quel est le rôle de ce dispositif?
Ce dispositif a pour rôle de quantifier le COD qui est séquestré par nos forêts. Et donc, au final, on aura l'idée globale de la quantité de COD séquestré. Et c'est ça qui va nous permettre de vendre, n'est-ce pas, ce carbone séquestré. Parce qu'on saura, un hectare de forêt en RDC séquestre telle quantité de carbone. Et ça, ça nous permet justement de vendre, n'est-ce pas, de montrer à la face du monde quelle est la quantité de COD séquestré par les forêts de la République d'Autriche du Congo. C'est juste un échantillon des forêts au niveau de Yangambi. Mais donc, ça nous donnera une idée plus ou moins claire de dire, voilà, un hectare de forêt en RDC séquestre telle quantité de COD.
Quand est-ce que les Congolais pourront bénéficier de retombées de cette technologie européenne?
Très, très prochainement, très prochainement. Je crois une année ou 2 ans suffiront pour que nous puissions avoir les retombées réelles. Et donc, les concessionnaires, les gens qui conservent les forêts, ils pourront alors avoir la possibilité de gagner de l'argent sur base des forêts qu'il conserve. Parce qu'à ce moment-là, on saura que quelqu'un qui a un hectare de forêt, il séquestre autant de COD. Et donc là, il peut vendre, il peut gagner de l'argent sur base de cela. Et c'est comme ça que maintenant, nous encourageons tout le monde à conserver des forêts de manière à ce qu'il puisse tirer des dividendes sur base de ces informations qui sera disponible d'ici peu.
Quelle solution préconisez-vous pour sauvegarder nos forêts qui sont utilisées de façon abusive?
Une des grandes solutions, c'est la plantation de arbres. Si chacun arriver à planter un arbre par mois, on arriverait à résoudre durablement les problèmes. La FAO, en 2020, a montré que à travers le monde, 2400 arbres sont coupés en une minute. Chaque minute qui passe à travers le monde, 2400 arbres sont coupés. Mais donc, si chacun de nous pouvait planter par mois un seul arbre, on aura sauvé la situation. Mais également, il faut réduire notre pression sur la forêt.
Professeur Nikeza Mundala, merci.
Le coordonnateur de l'ONG Action pour le droit de l'environnement et la restauration de l'écosystème, ADRE en sigle, répondait aux questions de Jacques Moukonkolé. Merci d'avoir suivi ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo. Merci de nous avoir suivis.